Il est 8h. Le journal Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour, bonjour à tous. Jour de galère numéro 4 pour les voyageurs au départ ou à destination de la gare Montparnasse. Un train sur deux aujourd'hui encore. Toujours la conséquence du spectaculaire incendie d'un poste électrique vendredi. Mais les opérations de remise en état vont plus vite que prévu. Deux dates cochées dans l'agenda des députés cette semaine. Vote de non pas une, mais deux motions de censure de l'opposition demain. Suite de l'affaire Benalla oblige ou comment le Premier ministre est désormais contraint de s'expliquer devant la représentation nationale. Et mercredi, ce sera le retour au travail parlementaire plus classique, disons, avec le vote solennel de la loi dite Pénicaud 2. Muriel Pénicaud, que vous recevez d'ailleurs à 8h20, Frédéric.
La ministre du Travail, invitée du grand entretien de la matinale, le chômage en hausse au deuxième trimestre, la loi Avenir professionnel votée, vous l'avez dit, après-demain. Muriel Pénicaud dans le viseur des juges d'instruction dans le cadre de ses fonctions précédentes. Le standard est ouvert. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr.
Brexit coming et c'est déjà l'heure de provisionner pour les Britanniques inquiets de la perspective d'un divorce sans accord avec l'Union Européenne. Certains envisagent déjà des solutions face au risque de pénurie. Dans l'actualité encore, élections sous tension et violence au Mali, c'est désormais l'attente des résultats. La fin d'Autolib et l'absence d'alternatives pour 150 000 utilisateurs parisiens. Et puis un maillot jaune aux accents gallois, Geraint Thomas vainqueur du Tour de France hier.
France Inter.
Vous avez remarqué, il fait chaud, et c'est même peu de le dire. C'est vrai au Japon, où les records de chaleur ont fait plus de 80 morts. C'est vrai en Grèce ou en Californie, où les incendies sont aussi ravageurs que meurtriers. C'est vrai en Suède, où le mercure s'affole. C'est vrai encore en France, où le thermomètre va rester dans le rouge cette semaine aussi. Alors peut-être avez-vous fait partie de ceux très nombreux qui se sont laissés séduire par l'achat d'un climatiseur. Ça soulage, n'est-ce pas? Oui, mais c'est aussi une aberration écologique. Sandy Dauphin est là pour vous en convaincre.
Souvent, les gens réagissent à chaud, façon de parler, comme en hiver, quand il y a une vague de froid, ils vont acheter le chauffage en promotion, qui souvent sont des fins de série peu efficaces. Pour les climatiseurs, c'est pareil.
Stéphane Merlot est conseiller info et énergie à l'Agence parisienne pour le climat. La clim rafraîchit l'intérieur, mais elle réchauffe aussi l'air ambiant extérieur.
Le principe, c'est de refroidir l'air avec un gaz frigorigène, et il y a un échange de chaleur, donc l'air frais qui est produit à l'intérieur rejette de l'air chaud. En gros, les calories sont juste transférées d'un à l'extérieur. Donc ça amplifie ce phénomène de chaleur urbain.
Aujourd'hui, difficile pour les établissements recevant des publics sensibles de se passer de la climatisation. En revanche, si tout le monde s'y met, la ville va devenir de plus en plus étouffante. C'est ce que confirme une étude CNRS Météo France.
L'augmentation de la température due aux climatisations, c'est entre 0,25 et 1 degré. En 2030, la projection montre que si on double le nombre de climatiseurs, cette augmentation serait de 0,5 à 3 degrés en plus à Paris.
Comme alternative à la clim, il y a toujours le ventilateur au plafond qui brasse de l'air. Mais c'est surtout une bonne isolation des bâtiments et le choix des matériaux de construction qui permettent d'être au frais à l'intérieur.
Sandy Dauphin pour France Inter. Encore une journée compliquée en gare Montparnasse à Paris, Charlotte
Piret. Avec aujourd'hui un train sur deux seulement au départ ou à destination de la gare parisienne. Mais la situation pourrait s'améliorer un peu plus vite que prévu. RTE annonce avoir mis les bouchées doubles après cet impressionnant incendie d'un poste électrique d'ici les Moulineaux vendredi. Incendie d'ailleurs toujours inexpliqué, mais dont les conséquences se font encore ressentir car la remise en service du réseau électrique est loin d'être chose aisée. Noémie Bonin.
Les techniciens ont travaillé tout le week-end pour avancer. L'une des difficultés, c'était évidemment toute l'eau déversée par les pompiers pour éteindre l'incendie de vendredi. Pas simple, explique Xavier Piechazik, membre du directoire d'RTE.
Alors, l'eau électricité, ça fait très mauvais ménage. Il a fallu qu'on évacue 1000 mètres cubes d'eau qui restait dans cette galerie. La fin du pompage de cette eau a pour nous été une bonne nouvelle, puisque ça nous a donné de la visibilité sur le tracé des câbles provisoires. Et une fois qu'on a eu cette visibilité, on a trouvé des astuces pour les faire passer aux bons endroits, ce qui nous a permis d'aller plus vite.
Souder ensemble les câbles provisoires, refaire les isolations, et ce n'est pas une mince affaire puisque c'est du 63 000 volts, il a fallu être malin et inventif.
Ça reste un coup de main, ça nécessite la compétence de techniciens très très spécialisés. Il n'y en a pas beaucoup chez nous, il y en a très peu en France, en capacité le plus vite possible de faire ces soudures. Et surtout, une fois que les soudures sont faites, de les réemballer pour qu'elles soient bien isolées. C'est ça qui est très important.
Les travaux en tant que tels se terminent ce matin. Série de tests prévus dans la foulée. Et en fonction de ça, la réalimentation électrique possible soit cet après-midi, soit demain en fin de journée.
Une scène malheureusement presque banale, bien trop banale. Un homme croise une femme dans la rue, l'importune, lui lance des propos obscènes, les gestes ne sont guère mieux. Elle poursuit sa route, mais lâche au passage une insulte. C'est là que la scène dégénère, l'homme revient, lui jette un cendrier au visage, puis la frappe violemment. Depuis, la jeune femme a mis en ligne la vidéo de son agression et celle-ci a fait le tour des réseaux sociaux. Ce matin, la secrétaire d'État à l'égalité entre hommes et femmes promet une application effective de la loi sur le harcèlement de rue et les premières amendes à l'automne.
France Inter, il est 8h05, l'affaire Benalla, toujours au cœur de l'actualité. En ce début de semaine.
Aux grandes dames, sans doute, de certains qui y comptaient sur le week-end pour voir la polémique se faire doucement oublier. C'était sans compter sur la pugnacité de l'opposition qui entend garder la main sur l'agenda politique et qui, droite et gauche, ont déposé deux motions de censure simultanées du jamais vu depuis 1980. Seule solution pour contraindre le Premier ministre à s'expliquer devant la représentation nationale, selon Damien Abad, député de l'Ain et vice-président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il est au micro d'Aurélien Colli.
On a eu un simulacre de commission d'enquête où malheureusement les auditions n'ont pas pu être menées jusqu'au bout. Maintenant, il faut donc pouvoir continuer effectivement cette semaine à comprendre ce qui s'est réellement passé autour de cette affaire Benalla. Donc l'objectif de cette motion de censure, il est simple, c'est de mettre le gouvernement devant ses responsabilités. On a eu un Premier ministre qui a fait le choix de ne pas venir s'expliquer devant l'hémicycle jusqu'aux questions au gouvernement 10 jours après. On a eu un ministre de l'Intérieur qui a été également aux abonnés absents, ainsi que le ministre des Relations avec le Parlement. Et donc on ne peut pas avoir en permanence un gouvernement qui se défausse de ses responsabilités. Et l'objectif de cette motion de censure, c'est de rappeler le gouvernement à ses responsabilités. On sait très bien qu'on ne pourra pas renverser le gouvernement parce que nous sommes minoritaires à l'Assemblée nationale, mais les Français ont droit à demander des comptes par rapport à ce qui s'est passé et surtout pour éviter que cela se reproduise.
Et au cœur de l'affaire Benalla, le travail parlementaire plus classique, dirons-nous, tente de se poursuivre. À l'agenda des députés cette semaine, le projet de loi Avenir professionnel, rebaptisé Pénicaud 2. Il passe en vote solennel ce mercredi devant l'Assemblée nationale avec pour mesure phare le CDII, comprenez le contrat à durée indéterminée intérimaire, sorte de contrat hybride déjà pratiqué dans certaines branches depuis plusieurs années, qui devrait donc désormais être inscrit dans la loi. Et quand les syndicats dénoncent un pas de plus vers la flexi-sécurité, certains intérimaires concernés, eux, se réjouissent. Lise Ferbeck en a rencontré.
Il y a 6 mois, Marie a signé un CDI avec son agence d'intérim à Saint-Nazaire. Elle est actuellement en mission pour un sous-traitant d'Airbus et ce « i » en bas de son contrat a changé beaucoup de choses.
Je voulais acheter, j'ai pu avoir un prêt auprès de ma banque, donc j'ai réussi à avoir... c'est la sécurité de l'emploi, donc la banque a pu m'accepter mon prêt et j'ai pu être maintenant propriétaire.
Autre sécurité pour Marie, entre deux missions, ce contrat lui permet d'être rémunéré à hauteur du SMIC par son agence d'intérim. Pour les entreprises, c'est aussi un avantage. Isabelle Hénaud-Chevalier est déléguée générale de Prisme Emploi, l'association des agences d'intérim.
C'est l'entreprise de travail temporaire qui supporte ce risque économique d'une embauche ferme. Donc c'est la bonne formule pour concilier la sécurité pour l'intérimaire et la flexibilité pour l'entreprise utilisatrice.
Mais il y a aussi des inconvénients pour le salarié qui perd une partie de ses revenus en devenant CDI, selon Mathieu Maréchal de Force Ouvrière.
Le salarié intérimaire qui va signer un CDI intérimaire va se retrouver avec 20% de salaire en moins. Les 10% d'indemnité de fin de mission plus les 10% de congés payés. C'est quand même une perte de rémunération qui peut aller entre 500 et 700 euros par mois.
Le syndicat évoque également la pression mise sur l'intérimaire en CDI qui ne pourra plus refuser de mission, même si celles-ci sont plus loin de chez lui et moins bien rémunérées.
Voilà un mois que Redouane Faïd s'est évadé de la prison de Réau, évasion spectaculaire en hélicoptère et qui pose toujours question, d'autant que le braqueur multirécidiviste est toujours en cavale. La ministre de la Justice doit rendre public cet après-midi un rapport sur les éventuelles failles au sein de l'administration pénitentiaire sur cette évasion. Rapport qui pourrait aussi s'accompagner d'évictions de certains cadres.
Plus de 8 millions de Maliens étaient appelés aux urnes hier.
Dans ce pays qui compte une vingtaine d'ethnies différentes et où ce scrutin présidentiel est considéré comme crucial pour la pérennité de l'accord de paix signé en 2015. Alors, les forces de sécurité étaient déployées en grand nombre, 30 000 dans tout le pays. Et malgré cela, les attaques djihadistes se sont multipliées aux tirs de roquettes par endroits. Au total, le scrutin a été perturbé, voire même empêché dans plus de 200 bureaux de vote. Et les électeurs n'ont pas toujours été au rendez-vous dans ce pays où moins d'un tiers de la population de plus de 15 ans sait lire et écrire. Désormais, donc, c'est l'attente des résultats pour le président sortant et candidat et ses 23 concurrents, Nathanaël Charbonnier.
La question qui se pose est la suivante, et maintenant, maintenant que le vote a eu lieu, maintenant que les Maliens se sont déplacés aux urnes, que va-t-il se passer? Rien pendant les heures à venir, et peut-être les jours à venir. Les résultats peuvent être proclamés jusqu'à vendredi, même si les rumeurs tapent plutôt sur 48 heures. Si la logique est respectée, avec 24 candidats, il devrait y avoir un second tour, et les médias ici misent sur le président sortant Ibeka face au principal candidat d'opposition, Soumaïla Cissé. Ce qui est très important, c'est que tout le monde est unanime pour expliquer que quelle que soit l'issue du vote, il sera respecté, car c'est la démocratie qui aura parlé. Pour l'heure, les deux camps se disent confiants. Du côté du président Ibeka, on vendait l'idée d'une victoire au premier tour, c'est dire. Du côté de l'opposant Cissé, on explique que les premières remontées des régions sont bonnes et que la diaspora malienne, notamment française, a voté pour lui dans une logique de vote-sanction. À Bamako, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Et puis au Cambodge, le parti du Premier ministre Hun Sen a revendiqué hier la victoire aux élections législatives. Victoire écrasante même, avec un peu plus de 100 sièges sur 125, mais victoire controversée puisque la principale force d'opposition du pays, dissoute en 2017, était absente du scrutin. Cela a plongé dans le grand bain pour le nouveau chef de la diplomatie britannique nommé au début du mois. Jeremy Hunt se rend en Chine aujourd'hui, car il faut bien soigner les potentiels futurs alliés commerciaux du Royaume-Uni une fois le Brexit entré en vigueur. Étape ensuite en France et en Autriche, où il sera plutôt question de trouver un accord, car le no deal est devenu une réelle inquiétude outre-Manche, à tel point que, dans ce pays où près d'un tiers des produits alimentaires proviennent de l'Union européenne, certains craignent la pénurie et commencent déjà à s'organiser. Elodie Goulesque.
Des prix plus élevés et des camions remplis de biens périssables bloqués à la frontière. Voilà ce qui attend les Britanniques en cas de no deal. Un scénario catastrophe qui, selon Eric Milstone, professeur à l'université de Sussex et expert en politique alimentaire, est justifié.
There doesn't seem to be the physical capacity to hold.
Il n'y a pas la capacité de stocker des denrées périssables au Royaume-Uni dans le laps de temps qu'il nous reste avant de décider un Brexit dur ou un no deal. Donc je pense que le gouvernement ne gère pas le problème de façon intelligente.
Theresa May et son gouvernement ont lancé des études pour anticiper le risque de pénurie de nourriture et médicaments en consultant ses services de santé et les patrons de l'agroalimentaire. Une façon de rassurer l'opinion publique, même si selon Eric Milstone, il n'y a qu'une solution.
La seule solution pour éviter ces pénuries est de rester au minimum dans l'union douanière et aussi dans le marché unique.
Mais il s'agit là justement des points de friction entre partisans d'un Brexit dur et pro-européens au sein du gouvernement. Difficile donc d'anticiper quelles seront les réelles conséquences du Brexit à ce niveau-là, puisque deux ans après le référendum, Theresa May et son cabinet n'ont toujours pas réussi à trouver un accord à présenter aux négociateurs européens. Londres, Elodie Goulesque, France Inter.
8h12, la suite et la fin du journal de Charlotte Piret sur France Inter. Autolib, c'est fini.
Ouais, les petites voitures électriques parcourent leurs derniers kilomètres dans les rues de Paris. Ce soir à minuit, on coupe les moteurs pour cause de fin de contrat entre le groupe Bolloré et le syndicat mixte Autolib Vélib, contrat résilié en raison d'un différend financier. Mais après 7 ans d'utilisation, les 150 000 abonnés se retrouvent aujourd'hui sans alternative, Thibault Lefebvre.
Des bornes de recharge électriques taguées avec des câbles arrachés et plus aucune Autolib disponible depuis maintenant plusieurs semaines dans l'Est parisien. Samuel vit devant une ancienne station dans le quartier de Ménilmontant.
Ma femme, elle s'en servait tous les jours et moi le week-end. Ça avait ce côté pratique, en moins de 10 minutes, vous aviez une voiture qui n'est pas à vous et vous allez d'un point A à un point B, quoi.
Aujourd'hui, l'alternative pour vous ?
On prend les transports en commun, hein, entassés avec les grèves.
La fin d'Autolib touche aussi les entreprises et notamment les petits commerces. Agnès est caviste et depuis 7 ans, elle utilise le service de voitures partagées pour approvisionner sa boutique.
Il n'y a rien pour remplacer Autolib aujourd'hui. Ça remet en cause mon fonctionnement économique. Autolib me permettait de ne pas faire trop de frais et du coup de ne pas surévaluer mes prix. C'est dommage que personne n'ait pu reprendre la gestion de ces Autolib.
Plusieurs opérateurs sont pourtant sur les rangs, mais aujourd'hui, aucun service n'est encore opérationnel. Alors une vingtaine de communes de la petite et de la grande couronne réfléchissent au retour d'Autolib. Philippe Briot est le maire du Chesnay.
Le groupe Bolloré aujourd'hui a plus de 3000 voitures. Et nous, on a les autorisations de voirie pour faire ce qu'on veut. Donc on voit qu'on est capable de ceinturer tout Paris avec ces voitures. Il n'y a aucune raison de lâcher prise.
Le collectif de maires attend une réponse du groupe Bolloré pour la fin du mois d'août. Il a aussi déposé deux recours en justice.
Des débuts sur le vélodrome de Cardiff, un accent à couper au couteau et un sacré coup de pédale visiblement. De quoi en tout cas permettre au Gallois de 32 ans, Guérin Thomas, de remporter le Tour de France hier après plusieurs jours en jaune. Hier, le coureur de l'équipe Sky qualifiait lui-même sa victoire d'insensée. Aujourd'hui, il est attendu chez lui pour la célébrer comme il se doit, le Pays de Galles, qui ne l'a d'ailleurs pas tout à fait attendu pour débuter les festivités. activité entamée il y a déjà plusieurs jours. Marina Daras.
Guérin Thomas a tout pour faire la fierté des Gallois. Double médaillé d'or olympique et triple champion du monde de poursuite par équipe, c'est aussi le coéquipier increvable de la Team Sky qui a porté Sir Bradley Wiggins et Chris Froome sur le podium pendant des années, mettant son ego et ses rêves de victoire de côté pour le bien de l'équipe. Sans parler de son prénom, typiquement gallois, imprononçable même pour les présentateurs sportifs britanniques qui l'écorchent à tout bout de champ. Et malgré la réputation entachée de la Team Sky qui souffre des allégations de dopage envers Chris Froome, Geraint Thomas est devenu le chouchou du peloton et des supporters durant ce dernier Tour de France. Avec cette victoire, Geraint Thomas entre dans l'histoire du sport gallois et est devenu l'une des icônes du pays. Pour marquer le coup, les monuments de la ville de Cardiff ont été illuminés de jaune en son honneur. Certains Gallois ont même pensé à repeindre en jaune les boîtes aux lettres de la ville et à vêtir l'emblématique dragon rouge gallois d'un maillot jaune le temps d'un week-end de fête. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Guérin Thomas sur la première marche du podium hier, donc devant Tom Dumoulin et Chris Froome.